Toujours dans la phase de formation du contrat et avec Philippe Dupichot, nous allons voir une question relative au contenu du contrat. La question est: qui détermine le contenu du contrat? Alors, on a une réponse évidente qui nous vient, ce sont les parties qui déterminent le contenu du contrat. Les parties se mettent d'accord sur le contenu du contrat. On pourrait dire tout de suite, attention, contrat d'adhésion, c'est un peu différent, mais quand même, au moins, une partie détermine le contenu et l'autre accepte ce contenu. Donc ce sont les parties qui déterminent le contenu, mais pas seulement, puisque ce peut être aussi la loi, le juge, les usages. On avait dans le Code civil de 1804 un texte qui est l'article 1135. Philippe, si je peux te demander de nous en donner lecture.
Avec plaisir. Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
C'est fort bien rédigé et fort bien lu. Article 1194, nouveau dans le texte qui résulte de l'ordonnance, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Donc, ça dit à peu près la même chose.
On retrouve la substance de l'article 1135.
Voilà, on ne parle plus de
l'obligation, du contenu de l'obligation d'après sa nature. Petit détail, on ne parle plus des conventions, puisque maintenant on ne parle que des contrats. En tous les cas, donc, on comprend que ce ne sont pas seulement les parties qui déterminent le contenu du contrat, mais par exemple, ça peut être une loi supplétive de la volonté des parties qui va venir compléter cette volonté. Si les parties n'ont pas écarté une règle légale, cette règle trouve à s'appliquer et du coup peut venir compléter la volonté des parties.
Effectivement, on peut également penser ici au phénomène bien connu du forçage du contrat, où certaines obligations, par exemple de sécurité dans les transports, ont été, on le sait, ajoutées par le juge au contrat, quand bien même les parties n'en seraient pas expressément convenues. Mais pour le reste, le principe cardinal reste que qui dit contractuel dit juste, les parties déterminent librement l'équilibre de leurs prestations.
Et alors maintenant, nous abordons une question plus compliquée, qui est celle de la possibilité qu'une seule partie détermine le contenu du contrat. Une seule partie détermine le contenu du contrat et nous avons deux textes qui mérite d'être vu. Premier texte, l'article 1164 du Code civil. Dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. Et cette règle, il est indiqué juste après que, en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant, la résolution du contrat. Est-ce que cela, Philippe, c'est une règle entièrement nouvelle ?
Alors, ce n'est pas une règle entièrement nouvelle, puisque je crois que chacun aura reconnu ici l'apport des quatre arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, qui sont venus, on le sait, clore la saga des contrats de pompistes de marque et de bière, en reconnaissant le pouvoir de fixer unilatéralement le prix dans ces contrats cadres, sous réserve évidemment d'un contrôle ultérieur du juge. Ceci dit, la formulation de l'article 1164 nouveau est légèrement différente, me semble-t-il, de celle des arrêts d'assemblée plénière du 1er décembre 1995, ne serait-ce que parce que disparaît la réserve des dispositions spéciales qui figuraient dans ces arrêts, dispositions spéciales qui renvoyaient par exemple au contrat de vente dans lequel le prix doit être déterminé et désigné par les parties, article 1591. Alors, est-ce que ce n'est pas confirmé, et je crois que c'est la position que l'on doit avoir, que lorsqu'un contrat cadre prévoit la conclusion de contrats ultérieurs qui sont des ventes, il n'est pas nécessaire que le prix des ventes consécutives soit déterminé ni même déterminable. Il peut l'être fixé unilatéralement, par exemple par le concédant dans le cadre d'un contrat de concession, sans quoi la jurisprudence relative au 1er décembre 1995 perd toute signification.
D'accord. Et autre texte important, l'article 1165, alors qui lui ne vise plus les contrats cadres, mais là les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Avant de voir la réserve qui est apportée à ça, on peut se dire déjà que c'est une règle qui peut sembler surprenante à qui ne connaîtrait pas le droit des contrats. Parce qu'on nous dit que dans les contrats de prestation de service, alors c'est quoi un contrat de prestation de service d'ailleurs? Est-ce qu'on a une définition dans le Code civil? Non, on n'a pas dans la liste des définitions définitions qui sont dans les dispositions préliminaires, on n'a pas de définition du contrat de prestation de service. Donc, ça doit être le contrat d'entreprise.
D'entreprise, effectivement. Je pense que ce texte peut également s'appliquer au contrat de mandat, probablement, si l'on regarde l'état actuel de la jurisprudence. Et comme le disait Bruno à l'instant, cela peut surprendre le non-juriste que le prix du contrat d'entreprise puisse être déterminé unilatéralement par le prestataire de service ou par l'entrepreneur. C'est néanmoins la solution classique en matière de contrat d'entreprise toutes les fois qu'on est en présence d'un marché qui n'est pas un marché forfaitaire, qui n'est pas un contrat à forfait, et lorsqu'il est impossible pour le prestataire de connaître l'étendue de sa prestation avant d'avoir effectué son travail, il faut bien, par simplicité, efficacité et là encore liberté, lui reconnaître le pouvoir de fixer unilatéralement le prix, mais toujours évidemment à charge de motiver de ce prix en cas de discussion, et charge et possibilité pour le maître de l'ouvrage, le client, de s'en ouvrir au juge en cas de contestation.
Oui, on retrouve cet unilatéralisme qu'on avait évoqué précédemment. Et alors, il y a une réserve qui est apportée, puisqu'on nous dit qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, dans les contrats de prestation de service où donc le prestataire va fixer unilatéralement le prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts, donc voilà, qui va venir rétablir l'équilibre.
Effectivement, et je crois qu'ici, on retrouve aussi la trace de ces décisions assez nombreuses qui viennent réviser les honoraires excessifs des mandataires ou qui viennent, par exemple, tempérer la prestation et la rémunération demandée par un généalogiste. Et je crois que l'idée est ici que le juge doit, par exception, avoir le pouvoir, effectivement, de tempérer en quelque sorte le prix par l'allocation de dommages-intérêts, mais non pas à réviser le prix. Cela revient économiquement un peu à la même chose, il est vrai.
Donc, comme nous l'avons vu, en principe, les parties fixent le prix, parfois ce sera aussi la loi, les usages, le juge, et nous avons des textes dans le Code civil qui consacrent la jurisprudence, mais en même temps lui apportent quelques retouches, et visent des cas donc, dans lesquels c'est une seule partie qui va fixer le contenu du contrat, en l'occurrence le prix. Merci.